l'avez lu. Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 17 octobre 2020. Germain, bonsoir.
Bonjour Antoine.
Ça va bien?
Ça va bien. Écoute, bon. un petit mot en commençant, hein, parce que cette semaine,
L'heure est à la fête.
Oui, l'heure est à la fête, parce qu'on a célébré le deuxième anniversaire de la radio à partir de laquelle vous nous entendez, donc Cube Radio. Donc 2 ans, et il reste une part du gâteau pour ceux qui en veulent.
Quand on va avoir 3 ans, oui. Est-ce que Cube... devoir fêter une année spéciale.
Avis aux employés du marketing de Cube Radio. On a une bonne suggestion ici.
Bon, on commence quelques actualités. On a vu passer d'abord, enfin, devrait-on dire, le prototype.
Ouais.
Toute chose étant relative, du nouveau Acura MDX 2022 qui devrait arriver chez nous quelque part à l'été prochain.
Ouais,
une version quasi de production.
On nous l'a présenté comme une version prototype, là, mais ça va ressembler à 99% au véhicule qu'on va avoir sur les routes. Moteur de base, d'abord le même, hein, donc V6, 3.5 litres, mais la grande nouveauté, c'est l'introduction du nouveau moteur, lui, toujours V6, mais de 3 litres, turbo compressé.
Ouais.
Le moteur qui va arriver avant ça dans la TLX type S.
Ouais.
Donc, c'est assez prometteur parce qu'on est à 355 chevaux. Donc, c'est assez puissant. On a vu des photos de l'intérieur, hein, donc ça va être le fameux système d'infodivertissement avec le pavé tactile, le trackpad, comme on dit en anglais. Donc, ça fait pas l'unanimité. En fait, oui, ça fait l'unanimité. Tout le monde déteste ça,
ouais.
Mais on l'a pas compris chez Acura. Donc, c'est ce qu'on va retrouver là, sur la planche de bord, ce qui est assez ordinaire. Là.
Mais on peut quand même affirmer que le look est pas mal mieux réussi,
oui,
que le modèle actuel.
Il me paraît plus allongé, peut-être une petite affaire plus trapue.
Tu vois, c'est drôle, j'aurais dit le contraire.
Bon, voilà. Donc, on va attendre de le voir en vrai.
Moi, je n'ai jamais aimé la génération actuelle parce que les portes arrière sont beaucoup plus longues que les portes avant.
Mm-hmm.
Et je trouve que ça lui donne un look un peu fourgonnette que j'ai jamais aimé. Là, on l'a habillé récemment avec une version A-Spec qui est
oui,
un peu plus dynamique, ça reste un design
c'est la partie complètement arrière. Là. Donc, derrière la deuxième rangée de portes qui me paraît, elle, un petit peu plus longue.
Ben,
donc,
il fallait travailler cet aspect-là du MDX parce que c'était un gros handicap par rapport à son petit frère qui le pilote.
Mm-hmm.
Le MDX, beaucoup moins spacieux, beaucoup moins polyvalent. Et pourtant, c'est la même clientèle, mais avec un budget plus élevé qui cherche ce genre de véhicule-là. Parce qu'on n'achète pas un MDX pour les mêmes raisons qu'on achète un Porsche Cayenne. T'achètes pas un MDX parce que tu veux avoir le logo, t'achètes un MDX parce que tu veux la totale en matière de luxe, mais tu es en même temps un acheteur assez pragmatique.
Oui, c'est rationnel comme achat un MDX.
Par rapport à l'achat d'un Q7, par exemple.
Ouais.
Alors, on a bien travaillé de ce côté-là. Bon, évidemment, on ne l'a pas essayé, on ne s'est pas installé à bord, à rien, mais ça laisse présager un succès quasi garanti pour ce véhicule-là, qui débarque, en fait, au moment où Infiniti va aussi renouveler son QX60,
ouais,
qu'on a vu passer il n'y a pas longtemps,
mm-hmm,
sous forme de prototype, mais encore là, très près d'un véhicule de production. Alors, j'ai hâte de voir quand ces deux véhicules-là vont arriver nez à nez sur le marché. Bon, Acura aura l'avantage d'une réputation qui est déjà enviable, mais
oui,
le QX60...
Et d'avoir un bon bassin d'acheteurs aussi, déjà. Mm. Là, QX60 aussi, mais...
mais on l'a étiré trop longtemps.
Ben, c'est ça, là. Donc,
ouais,
on a probablement perdu des acheteurs en cours de route à cause de ça.
Sauf que ça demeure encore aujourd'hui le véhicule le plus vendu de la marque.
Ça, c'est fascinant.
C'est incroyable. Puis on parle d'un véhicule qui est arrivé sur le marché sous le nom de JX35 en fin d'année 2012, sans avoir été renouvelé,
ouais,
jamais.
Ouais.
Alors, c'est quand même pas rien. Dans ce segment-là qui bouge très vite et qui évolue rapidement, Infiniti
Si je me trompe pas, on vantait à cette époque-là la banquette coulissante à la deuxième rangée.
Non, mais ce qui m'a toujours fasciné de ce véhicule-là, c'est aussi le fait qu'on était complètement hors champ par rapport à la direction que prenait Infiniti.
Mm-hmm.
Infiniti se voulait une marque axée sur la performance, sur la dynamique de conduite. Et là, tu avais une fourgonnette sans porte coulissante avec beaucoup de chrome, avec une conduite ennuyante à mourir, une boîte CVT. Puis c'est ce qui a pogné. Ouais. Alors que le reste, c'est pas vendu. Fait que ça a été un peu ironique. Bonjour aux gens qui sont les planificateurs de produits et les gestionnaires marketing d'Infinity ont eu une bonne leçon avec ce véhicule-là, c'est sûr.
Visiblement.
On va parler d'une voiture qui, moi, me passionne énormément. Toi, je sais que tu tripes moins.
J'ai mes réserves.
Mais la Mustang Mach-1 fait un retour pour 2021. Et là, on a annoncé cette semaine non seulement les prix, mais qu'on pouvait placer des commandes.
Oui, effectivement. Il y a d'ailleurs plusieurs lecteurs qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils avaient déjà passé leur commande. Donc, la Mustang en édition Mach-1, prix de base à 65 500 $
Ouais.
Elle vient en quelque sorte remplacer...
La bolide
dans le catalogue. Et si j'ai mes réserves, c'est justement parce que j'étais un très grand fan de la version bolide. Et c'était une raison de porter un veston brun à l'occasion. Donc, mais la version Mach-1 est beaucoup plus chère là quand même que la bolide. Je m'explique mal cette différence de prix-là. On était sous la barre des 60 000 avec la bolide. Et là, on est à plus de 65 000 $ C'est très cher, là, si ça me paraît peut-être même un peu poussé, mais visiblement, il y a un engouement énorme pour cette voiture-là qui va plaire aux nostalgiques, ça, il n'y a aucun doute. Donc, on a commencé à prendre les commandes chez les concessionnaires Ford pour une livraison au printemps 2021.
Alors, c'est pas compliqué, Ford sait qu'on va toutes les vendre.
Bien sûr.
Et
c'est pas limité, donc vous en voulez 12, on va vous en livrer 12, il n'y a pas de problème.
C'est pas limité, mais en même temps, on fabriquera peut-être pas la Mach-1 pour très longtemps. Parce que, aussi drôle que ça puisse paraître, la Mustang, en 2021,
ouais,
va déjà fêter son 7e anniversaire,
oui,
sous cette forme-là. Donc, même 8e.
Il était prévu qu'on nous en présente une nouvelle version, si je ne me trompe pas, en 2022, comme modèle 2023.
Alors, normalement, une Mustang, tu vois, la génération précédente a,
ouais,
duré de 2005 à 2014 avant,
ouais,
qu'on la renouvelle complètement. Et là, on arrive presque à ce bout-là. Donc, moi, je serais pas surpris que la Mach-1 soit là 2 ans et qu'après, le modèle soit complètement revampé. Mais ça, évidemment, Ford ne nous le dira pas. Et de toute façon, la Mustang actuelle est encore une voiture actuelle, si tu veux,
oui,
mon avis.
Ça a vieilli à l'intérieur,
par contre,
mais la voiture est encore très belle. Elle n'a pas l'air dépassée.
Ben, d'ailleurs, tu avais conduit la 4 cylindres récemment.
La 4 cylindres, la version GT cabriolet. Donc, tu sais, sur le plan de la conduite, on est encore là, il n'y a aucun doute. Les acheteurs sont encore au rendez-vous aussi.
Ouais.
Mais à l'intérieur, ça commence à passer date un petit peu.
Dit le gars qui se promène en Chrysler Newport.
Ben
n'est-ce
oui.
Pas, hein? Bon, Volkswagen Taos, on a déjà parlé ici. Remplaçant.
Hein?
C'est pas pire, hein?
Oui.
Remplaçant de la Volkswagen Golf qui, elle, disparaît. Ça, c'est triste.
C'est d'une très grande tristesse. Qu'on nous ajoute un VUS, bon, c'est une chose. Qu'on remplace la Golf par un VUS, c'est vraiment le dernier clou, là. Et donc.
Là, on a vu les images officielles.
Ouais,
on connaît les éléments techniques.
C'est un petit Tiguan, là, il n'y a aucun doute. Et ce véhicule-là va être assemblé au Mexique. Moteur 4 cylindres, 1,5 litres, turbo-compressé, évidemment.
Ouais.
Et version de base à 2 roues motrices. On va pouvoir avoir des versions aussi à 4 roues motrices. Et ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a des très grandes chances que ce soit un très grand vendeur.
Ah, absolument. Et c'est drôle parce que je lisais la liste des véhicules concurrents qui avaient,
ouais,
été établis par Volkswagen. Alors, on parle du Hyundai Kona, du Honda HR-V, Subaru Crosstrek, mais on n'a pas nommé le Ford EcoSport. Je ne sais pas pourquoi.
Ben, parce que c'est assez évident. Ce véhicule-là n'est pas dans la course du tout.
Non,
du
absolument
tout.
Pas.
Et, ben, tu sais, sur le plan stratégique, c'est tout à fait logique d'arriver avec un véhicule comme celui-là parce que, ben, le Tiguan, oui, c'est un VUS compact, mais il est énorme, là.
Ah, absolument.
C'est énorme, énorme. Absolument. La preuve, c'est qu'il y a des versions à 3 rangées, là.
Oui.
Donc, d'arriver avec un plus petit véhicule, ben oui, il y avait un vide à combler.
Puis je trouve que, oui, il a de l'air d'un Tiguan qu'on aurait passé dans la sécheuse, mais le look est un peu plus ramassé et ça me plaît davantage que celui du Tiguan qui est encore une fois un peu pour les mêmes raisons que le MDX. C'est trop étiré avec,
ouais,
des portes trop longues en arrière.
Mais d'ailleurs, en Europe, ils ont une version à empattement court du Tiguan, puis c'est franchement moins laid. Là.
Absolument.
On dirait un petit Touareg, voilà.
Bien, le Tiguan là-bas est vendu à empattement court,
mm-hmm,
et notre version est vendue en Europe sous le nom de Tiguan Allspace en Europe,
wow,
pour vous dire à quel point...
Tout est relatif.
Tout est relatif. J'avais tenté une transition du Ford EcoSport à notre prochain sujet, mais tu as élaboré davantage. Alors, revenons à Ford, puisque oui. Là, il est question du Ford Kuga. Oui. Vous vous souvenez, la semaine passée, que je vous avais parlé du fait que Ford avait repoussé de plusieurs mois.
Puis c'était nébuleux. On était assez avares de commentaires chez Ford Canada.
Ouais. Alors, l'Escape hybride rechargeable, on a repoussé la production, l'arrivée de ce véhicule-là. Ça sera un modèle 2021 qui devrait arriver au printemps seulement. Et ça, c'est si on le fait. Alors qu'on nous avait promis que le véhicule arrivait cette année, oui. Qu'on vendrait des versions 2020. Vous pouvez même les bâtir en ligne sur le site de Ford. Sauf que ça n'arrivera pas. Et moi, j'avais décrié ça haut la main. L'excuse de Ford avait été la disponibilité des batteries et la COVID-19. Ce en quoi je ne croyais pas du tout. Et là, on a appris pourquoi. On a appris quelle était la véritable raison. Moi, j'avais évoqué le fait que l'Escape ne se vend pas autant que ce à quoi on s'attendait.
Donc,
c'est vrai.
C'est une des raisons. C'est certain que ça aide pas son cas non plus. Mais cette semaine, Ford en Europe a rappelé pas moins de 20 000 Kuga, donc l'équivalent du Escape, mais vendu en territoire européen, en version hybride rechargeable, parce qu'il y a des risques d'incendie qui peuvent être causés par la batterie. Donc, je pense que les ingénieurs vont retourner en laboratoire, vont remanier le système de batterie, parce que...
Et si jamais on repense la batterie du véhicule, peut-être que ça serait une bonne idée de faire une batterie de plus de 15 kWh plutôt que 14,4, ce qui permettrait de profiter du plein crédit gouvernemental canadien.
Et de ne pas être désavantagé par rapport à son rival le plus direct, le Toyota RAV4 Prime.
Mais tu as remarqué dans ma phrase qu'il y a beaucoup de « si » et de « mais ».
Oui. Et on sait heureusement, il n'y avait pas de « ray ».
Non, et c'est ça. Mais on ne sait pas exactement quand l'Escape rechargeable arrivera chez nous.
Mais on rajoute plusieurs mois au calendrier initial, ça, il n'y a pas de doute.
Moi, je ne serais même pas surpris qu'une 2021 n'existe pas et qu'on se rende à 2022, mais toujours est-il que la vraie raison, c'est celle-là. Et ça, Ford, évidemment, n'a pas voulu nous le dire parce que des fois, le marketing chez Ford et les décisions sont un peu
discutables. Pas qu'on veut être opaque, mais c'est un peu ça quand même.
Ouais, voilà. Et ironiquement, parallèlement, cette semaine, on faisait connaissance avec le Bronco. On a pu s'asseoir dedans.
Le Bronco Sport.
Ouais, hein? C'est ça, le Bronco Sport. Mais on a pu s'asseoir dedans, on a pu regarder le véhicule davantage parce qu'évidemment, on en avait amené un ici à Montréal. Et je pense que les ventes qu'on a perdues avec l'Escape, on va aller les rechercher avec ça. Là.
Oui, parce que c'est un véhicule qui est très sérieux dans son approche. Un look.
Un sacré beau look.
Une allure là, un peu plus costaud. Tu vas me dire, c'est pas difficile de faire mieux que l'Escape actuel. Donc, franchement, c'est un véhicule qui va être cher. C'est un véhicule pour le moteur à 4 cylindres. Là, il va falloir prendre la version Badlands qui est la plus. Qui est au sommet de la gamme. Ça va être plus de 40 000 $ mais je vois un bel avenir à ce véhicule-là.
Puis, tu sais, je faisais un parallèle entre l'Escape et le Bronco Sport qui partagent les mêmes technologies techniques. Imagine-toi une botte Kodiak à côté d'un loafer. Là.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. En termes de présentation, oui. Tu sais, il y en a un qui est comme pas mal plus costaud, oui. Pas mal plus inspirant. Tu sais, alors que l'Escape tente d'aller chercher une clientèle de voitures et on n'a pas réussi le mandat qu'on voulait. Ford avait annoncé, ironiquement, de gros investissements canadiens pour le développement de véhicules électriques du côté de l'Ontario et a pu bénéficier de subventions gouvernementales majeures, bien sûr.
Et là, cette semaine, il s'est passé la même chose, mais avec Fiat Chrysler. Donc, le géant a investi 1,5 milliard dans le réaménagement d'usines et le développement de véhicules électriques, l'assemblage de véhicules électriques.
Ouais.
Qui va avoir lieu aussi en Ontario. Donc,
c'est... à l'usine de Windsor où on fabriquait la Dodge Grand Caravan.
Ouais.
Évidemment, là, c'est la Chrysler Grand Voyageur et la Chrysler Pacifica qu'on fabrique sur place. Mais le volume n'étant pas aussi élevé et parce qu'il faut évoluer, ben, je pense qu'on on travaille à l'élaboration de la fabrication de véhicules électriques. De toute façon, on fabrique déjà une Pacifica plug-in hybrid sur place.
Donc, c'est déjà un début, là.
C'est déjà un début, mais c'est une bonne annonce du côté de Chrysler parce qu'évidemment, oui. les produits Chrysler qu'on fabrique du côté canadien
oui.
commencent à dater.
Charger, et, Challenger et compagnie.
Ben, écoute, ça commence à inquiéter les employés, mm-hmm. là, parce qu'on sait ce qui est arrivé avec la Camaro, on sait ce qui est arrivé avec les usines de GM au Canada.
Ben d'ailleurs, on s'est vanté de la création de 2000 nouveaux emplois d'ici 2024, mais on lit là, en plus petit caractère en dessous qu'on en avait supprimé 1500 au cours de l'été. Oui. Donc finalement, on arrive là avec, tu sais, au bout de la ligne, plus 500. Ben c'est déjà bien, mais c'est la vérité, c'est qu'on a juste plus 500, pas plus 2000.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Chrysler au Canada. On parle...
Véhicule de la semaine, rapidement.
Toi, t'as été en amour,
non, Germain, absolument pas.
avec le Ford Explorer ST.
Écoute, je m'attendais à une version, oui, sportive de l'Explorer. Explorer qu'on a déjà conduit dans une multitude de versions. La version ST, c'est celle qui est présentée comme étant sportive. Oui, ça accélère vite, hein, parce que on a le V6 3 litres biturbo, c'est 400 chevaux. C'est très puissant, c'est vraiment pas ça le problème. C'est même impressionnant de voir à quel point un mastodonte comme ça peut accélérer.
Ouais.
Mais pour le reste, je trouve que c'est complètement déconnecté de la route.
Tu vois, moi, je suis pas... J'ai pas été... Justement...
C'est un véhicule qui est pesant, c'est lourd, c'est encombrant. Non, j'ai trouvé qu'en termes de direction, on n'était pas là du tout. Transmission automatique à 10 rapports, j'avais trouvé le même défaut dans la Mustang à moteur V8. Donc, quand elle est programmée pour une conduite plus sportive, c'est vraiment là qu'on a des problèmes. C'est des à-coups tout le temps, ça donne des coups. Elle est hésitante, il y a 10 rapports, tu vas me dire, c'est normal qu'elle sache pas lequel choisir, mais non, c'est vraiment pas convaincant. Et quand on regarde la concurrence, ben oui, c'est vieillissant, là, un Durango, mais au moins, on a un moteur V8, soit de 5.7, soit de 6.4 litres. Il y a de quoi rugir, et pour moi, c'est un VUS là, à 3 rangées, en version musclée, qui est pas mal plus intéressante.
Mais l'Explorer ST, moi, ce que j'ai aimé, c'est que la plateforme est drôlement plus rigide. C'est un camion qui est solide. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que l'ancienne version sport, ça, c'est clair. Bon, le châssis de l'ancienne génération commençait à dater. Là, c'était la plateforme du premier Volvo XC90.
Ouais.
Mais j'ai trouvé, moi, que l'Explorer ST... Moi, ce qui m'a pas plu sur l'Explorer, c'est pas le manque de qualité dynamique. Au contraire, j'ai trouvé que pour un VUS aussi lourd que ça, on était connecté bien suspendu. Les roues sont gigantesques, puis des fois, ça frappe fort, c'est vrai. Mais ce qui m'a pas plu, c'est tout l'aspect artificiel de la sonorité.
L'aspect artificiel, juste les sorties d'échappement.
Les échappements qui n'en sont pas des vrais.
Ben non, bon, ils sortent juste en dessous. Tu sais, tu dis pourquoi on les a pas fait sortir par les trous qui sont visibles. Tu sais, donc, il y a plusieurs incohérences comme ça.
Ben, en fait, il y a une raison technique pour laquelle l'échappement n'est pas un véritable échappement.
Okay.
C'est pour une question de sonorité et pour une question d'émanation.
Okay.
L'impact de l'échappement au sol est moindre que si tu l'envoies directement en arrière.
Bon.
Mais
toujours est-il que quand tu te penches, c'est bizarre.
Ça a l'air fou. Et la sonorité dans les haut-parleurs, c'est désagréable.
C'est terrible.
Se peut pas. Mais je ne sais pas quelle est cette mode-là de vouloir envoyer du son sportif dans des haut-parleurs de voiture. On le fait avec la GTI, j'ai détesté. On le fait avec la WRX, j'ai détesté. Mais sur le plan dynamique, j'ai pas mal mieux aimé l'Explorer ST que le Edge ST. Et lui, pour moi,
c'est pas une grande réussite.
Ça m'a vraiment pas plu. Rapidement, écoute, je te parle du BMW X5M que j'ai conduit aussi. Ça, j'ai
avec des belles bottines.
Avec des bottines. 315-35 ZR22 en arrière. Bonjour, la facture.
Non, j'ai pas ça en stock.
mais j'ai trouvé que, en matière de comportement sportif, cette machine-là était exceptionnelle. Vraiment, là, tu vas me dire, à quoi ça sert un VUS de 600 chevaux et plus? Rien. Je suis d'accord avec toi. Et je n'achèterais pas une X5M. Personnellement, j'irais vers une version à moteur V8 traditionnel.
Ouais.
Ou même le 6 cylindres fait un boulot extraordinaire. Si tu veux avoir un équilibre qui a du bon sens, le 6 cylindres en ligne dans un X5 fait un travail incroyable. Mais j'aime le X5 plus que le Cayenne, plus que le Q7,
quand même.
Plus que le GLE.
Quand
je
même,
trouve
c'est
que
pas
ce véhicule-là a une direction super précise, le châssis travaille bien, contrairement à d'autres véhicules que j'ai conduits récemment, notamment le GLE de Mercedes. Pas de craquement. Et j'avais été déçu du temps de réponse à l'accélération du Porsche Cayenne à moteur V6 que j'avais conduit. Ça, c'est instantané. Tu vas me dire, oui, il y a 600 chevaux, là, mais 617 pour être plus précis. Mais la conduite, l'agrément, l'impression de luxe suprême aussi à bord, l'éclairage de nuit, c'est magnifique. Alors, j'ai vraiment, vraiment aimé ce camion-là. Bon, la facture est conséquente. C'est un camion irrationnel complètement. Mais ça m'a convaincu que si j'avais à choisir un véhicule dans ce segment-là, dans une gamme à 80, 85, 90 000, plutôt que d'aller jouer dans les terrains du 125, 130, là, j'irais voir un X5 avant les trois autres. Ça, je suis persuadé de ça parce que j'ai vraiment aimé la dynamique complète de ce produit.
Bon, bien, c'est assez clair.